Bon, parlons du projet du REM, plus particulièrement le REM de l'Est de Montréal.
Oui. Paul, je ne sais pas si tu es comme moi, là, mais je regarde aller ce projet-là depuis qu'on est revenu des fêtes. Là. Et puis, je n'entends que les opposants. Autant le projet a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme en décembre, transformateur, revitalisant, enfin du transport en commun, moins de GES, moins de voitures, les campus vont être mieux desservis. Tu sais, je veux dire, c'était positif. Il y avait déjà, évidemment, le questionnement par rapport au...
Au centre-ville, là.
Oui, la structure aérienne. Tu sais, y a-tu vraiment moyen de faire ça beau? Mais, je veux dire, pour l'essentiel, le projet était plutôt bien reçu. Et puis là, écoute, au cours des dernières semaines, là, Québec solidaire est sorti contre, puis évidemment, eux autres, ils pèsent lourd parce qu'ils ont beaucoup de députés dans les quartiers qui seront traversés par le REM. Alors, ils ont mis une pétition en ligne, Québec solidaire. Le PQ est sorti. Alors là, je te fais la liste des opposants ou des groupes critiques, là, groupes et personnes critiques. Québec solidaire, Parti québécois, l'Ordre des architectes est sorti, l'Ordre des urbanistes est sorti, beaucoup de chroniqueurs, des citoyens comme Marc-André Carignan, Félix Lambert, Florence Jonca-Adeneau, les deux fermes d'architectes, dis-je, qui étaient au dossier, ont démissionné. La mairesse Plante, en décembre, là, Paul, la mairesse Plante était super pour le projet, là. Le jour de l'annonce, là, c'était elle la plus enthousiaste dans la salle. C'est un cadeau pour l'Est de Montréal et pour toute la métropole. Depuis qu'elle est revenue des fêtes, on va dire une affaire, tu l'écoutes parler, puis de semaine en semaine, son enthousiasme diminue. On me dit que au sein du caucus de Projet Montréal, mettons qu'il y a de la résistance au REM, notamment Maisonneuve-Rosemont, là, c'est-à-dire Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Hochelaga-Maisonneuve. Ça résiste pas mal, fait que là, elle est obligée de... Mais Paul, c'est parce que là...
On a compris une chose, là. Là où ça accroche, c'est pas l'idée d'un REM. Ça accroche principalement l'aménagement sur René Lévesque.
Oui, le mode aérien. Ouais.
Puis, principalement, mais ailleurs aussi, c'est-à-dire les garanties, appelons ça, de beauté.
C'est ça.
T'sais, parce que là, la caisse, et M. Émond l'a répété là, lors de la dernière assemblée, en disant on a fait tous les calculs, puis on ne peut pas le faire souterrain, puis il y a des vieilles structures. Puis bon.
En gros, ce qu'il a dit, si vous nous demandez de le faire souterrain, on ne le fera pas parce que ça ne sera pas rentable, ça va coûter trop cher et le risque va être trop élevé.
Mais là, tu te demandes comment implanter une structure aérienne sur le terre-plein du boulevard René-Lévesque, puis que ça ne soit pas laid.
C'est ça. Puis là, c'est à la caisse, bien évidemment, de faire cette démonstration-là. Moi, Paul, je ne suis pas en train de dire ce matin qu'il faut accepter les yeux fermés la proposition de départ de la caisse. Mais ce que je suis en train de dire, Paul, c'est que d'abord, il va falloir que les partisans du projet sortent et ils se préparent à sortir. C'est pour ça que je t'en parle le matin.
Qui sont les partisans?
Bien, notamment la Chambre de commerce de l'Est.
OK.
Puis la Technopole Angus. Bon. Christian Iaccarini a déjà publié une ou deux lettres ouvertes. Puis il y a d'autres groupes également qui vont sortir dans les prochains jours, me dit-on. Bon. Alors, moi, j'ai le goût de dire, sortez, puis sortez fort, puis soyez bons. Parce que si vous laissez tout l'espace aux opposants, ben ce qui va arriver, Paul, c'est qu'il n'y aura pas d'acceptabilité sociale. C'est que les gens qui vivent dans l'Est vont finir par croire que ce projet-là n'est pas bon pour eux, avant même que le débat se fasse. Moi, ce qui me choque, Paul, c'est que si on laisse les affaires aller comme elles sont parties depuis le retour des fêtes, le projet va mourir de sa belle mort, puis on n'aura même pas eu le temps d'en débattre. On peut-tu au moins débattre, Paul? On peut-tu, dans cette belle société qui est la nôtre, arrêter de tuer les projets avant même qu'ils lèvent? Les forces d'inertie puis de blocage sont devenues tellement fortes, t'es plus capable de rien proposer, calvasse. On peut-tu au moins discuter? Puis pour ce qui est du mode aérien, que la caisse fasse ses devoirs, ils doivent nommer une espèce de comité aviseur qui va les conseiller sur la beauté architecturale, là. Bon, l'ouvrage d'art là, qu'ils nous promettent. Bon, ben qu'ils nous fassent cette démonstration que c'est possible d'être beau. Puis, c'est pas suffisant de nous montrer que ça a été beau ailleurs. Ou en tout cas, que ça n'a pas été lettre. Hein? T'as vu la vidéo comme moi?
Oui, je sais.
Tu comprends? Fait que là, c'est ça. Là. Puis là, je me demande, le leadership politique, il est où, Paul? Le leadership politique, il est où? Madame Rouleau, la ministre de la Métropole, Simonac.
C'est quelqu'un d'un peu effacé.
Si elle n'est pas capable de faire la job, donnez-la à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'ils ont juste deux députés sur l'île, la CAQ. Puis ça me fait rire un peu en passant quand j'entends les opposants dire ils veulent faire un REM parce qu'ils veulent gagner des comtés sur l'île. Ben oui, ils veulent gagner des comtés comme tous les partis veulent gagner des comtés quand arrive une élection. Mais la CAQ, là, Le maximum qu'ils peuvent aller chercher de plus sur l'île, là, c'est deux, peut-être trois comtés de plus. Anjou, Maurice-Richard, peut-être Rosemont. Pour le reste, là...
Rosemont, je m'étonnerais.
Moi aussi. Mais je le mets en troisième. Parce que dépendamment de comment ça se partage, il pourrait peut-être. Mais tu sais, c'est 10 milliards minimum, ce projet-là. Si la CAQ voulait vraiment la jouer politique, il mettrait cet argent-là à Trois-Rivières, à Saguenay, à Sherbrooke, puis tu comprends, dans des endroits, dans des régions où ils sont présents, ils sont partenaires, ils poussent pour un projet de 10 milliards qui est sur l'île où, honnêtement, leurs perspectives électorales sont plutôt minces. Fait que là, chez moi, avec l'électoralisme, tu comprends? Fait que c'est ça, ça prend du leadership politique. La mère, elle se plante. Je sais pas trop. À un moment donné, je comprends qu'il y a des tensions à l'interne, mais tu peux pas être tout feu, tout flamme en décembre puis déclarer deux mois plus tard que t'es prête à prendre... Comment est-ce qu'elle a dit ça? Écoute, ça m'a fait sursauter. Elle dit, nous autres, on est prêts à vivre avec un niveau de risque assez élevé par rapport au projet. Un niveau de risque, Madame la mairesse? Vous parlez de quoi, là? Oui, c'est ça. On est confortable avec un bon niveau de risque par rapport au projet. Elle parle de quoi, là? Du risque financier? Elle parle pas, j'espère, du risque lié aux travaux. Tu comprends?
Non, mais c'est tout le débat sur la ligne rose aussi, là. Veux pas, là.
Le meilleur à date, c'est Lionel Pérez. Lionel Pérez, le chef de l'opposition, il a dit « On dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien. Est-ce que la population est prête à attendre un autre 25 ans pour avoir un train souterrain plutôt que d'avoir quelque chose en surface dans les 10 prochaines années? » Ben oui. Puis encore une fois, faites-moi pas dire ce que je dis pas. Je suis favorable au projet. Je pense qu'il peut être amélioré. La caisse doit faire sa job. Il rencontre la caisse depuis janvier des groupes, les élus municipaux, les groupes communautaires, les groupes environnementalistes. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces meetings-là, mais jusqu'à maintenant, ça ne semble pas les avoir convaincus, les groupes. Peut-être non. Que ça a diminué leur niveau de résistance.
Mais c'est parce que quand tu as deux firmes qui sortent d'un projet en disant écoutez, c'est pas faisable ou c'est laid, puis bon. C'est sûr qu'il y a, disons, un peu de doute qui s'installe.
Mais oui, puis c'est sûr que ça met un petit peu de sable dans l'engrenage. Mais, tu sais, Denis Coderre est sorti pour dire que c'est un projet exceptionnel. Il va-tu tenir la ligne quand il va se publier son livre, là, puis il va finalement lancer sa campagne, là? Il va-tu tenir la ligne? Paul, ça prend du leadership. À un moment donné, qui va prendre la tête du camp favorable au projet? Les opposants, on les entend. Tintoué, à tous les jours, quasiment. Ils sont où, les partisans? Organisez-vous. Soyez meilleurs. Soyez bons. C'est si bon que ça, ce projet-là.
L'appel est lancé.
Ben, il est lancé, mais il est lancé, certain qu'il est lancé.
Bon, un autre débat, c'est celui du côté fédéral, là, sur l'aide médicale à mourir.
Bon, garde bien, là. Il va falloir que ça aboutisse, Paul. Parce que là, le tribunal a prolongé 4 fois le délai.
Et là, c'est la dernière fois.
C'est la dernière. La Cour supérieure a dit, là, c'est la dernière fois, ils ont dit au gouvernement Trudeau, c'est la dernière fois qu'on vous permet de repousser. Parce que, je vous le rappelle, la Cour supérieure a déclaré que la loi actuelle, dans le fond, elle est inconstitutionnelle. On peut pas... tu sais, c'est le jugement Truchon-Gladue qui a invalidé le critère de mort raisonnablement prévisible. La Cour a dit ce critère-là devrait pas exister. Bon. Fait que là, ça a forcé le gouvernement Trudeau à changer la loi. Et là, le gouvernement Trudeau a déposé un projet de loi, C7, et puis là, Paul, les conservateurs font du filibustering. Les conservateurs sociaux en particulier, Paul. Ils sont toujours là, tu sais. Hein? Monsieur O'Toole a beau vouloir dire qu'on est passé à autre chose, que l'air sheer est terminé. Tu regardes, là, je suis allé les voir, les prises de parole, là, au cours des dernières étapes, là. Écoute, c'est pas compliqué. Les libéraux, les NPD et les bloquistes, ils parlent pratiquement plus sur le projet de loi, puis les députés conservateurs continuent à se lever puis les uns après les autres, puis retarder le processus. Et puis là, ben, c'est pas compliqué. Il faut que la loi soit adoptée d'ici la fin du mois. Puis il reste 2 semaines de travaux parlementaires à Ottawa. Fait qu'il va falloir que dans les prochains jours, Pablo Rodriguez, le leader, fasse un move. Parce que là, il faut que la loi soit adoptée et qu'elle retourne au Sénat. Parce que le Sénat a émis des conditions. Ils ont dit, on est pauvre, mais on a des conditions. Fait que là, puis tu sais, ce qui me choque un peu aussi, c'est que je regarde, la majorité des députés conservateurs du Québec sont favorables à l'aide médicale à mourir. Tu regardes le vote de Gérard Deltel, Alain Reyes, Pierre Paulus, Richard Martel. La majorité des députés conservateurs, ils représentent bien le consensus québécois là-dessus. Mais dans l'Ouest... Avec les députés, mettons, un petit peu plus religieux.
Non, mais quand on embarque aussi dans le débat sur la santé mentale et l'aide médicale à mourir, là,
c'est sûr.
Une autre page.
C'est sûr. Puis là-dessus, le gouvernement Trudeau dit on va l'accorder, mais on va se donner une période de temps. 18 à 24 mois. Là. Le Sénat voudrait que ça soit plus rapide. Alors, ils vont ouvrir sur l'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont une maladie mentale, mais on va prendre le temps de bien faire les choses. Ils vont créer un comité avec le Sénat, puis tout ça. Fait que là, il faut que ça aboutisse, Paul. Il faut que ça aboutisse.
De toute façon, dans les pays où ça existe, là, il y a peu de cas. Et les critères sont quand même assez serrés. Là. C'est pas parce que tu as une dépression que tu vas demander l'aide médicale à mourir.
Non, c'est ça, exactement. Là, c'est... Alors, surveillez ça cette semaine. C'est quand même un débat important qu'on a réglé, nous autres, au Québec. Et puis là, ben, on va voir comment M. Rodriguez, avec les oppositions, va régler ça à son tour.
Merci. 7h12. Un véhicule en panne, cette fois, sur la 13. C'est...